frappe là, d'entrée de jeu dans ce que tu dis en termes de géographie, c'est que finalement, par rapport à la discussion qu'on avait ce matin sur politique de la ville versus la lecture de Christophe Guilluy qui explique que les vrais pauvres ne sont pas dans les grands ensembles, mais ce sont des Français de souche exilés dans des villes moyennes. En fait, entre l'Est et l'Ouest, vous avez les deux, si je peux dire, dans votre géographie de la Sozialstadt. Vous avez à la fois, effectivement, les ensembles plutôt spécialisés en accueil des migrants et des immigrés à l'Ouest, et les ensembles plutôt spécialisés dans l'accueil des ouvriers, des employés, alors, je ne sais pas si vous dire allemand de souche, on peut dire ça comme ça, à l'Est. En fait, et c'est assez intéressant, effectivement, de voir, compte tenu de cette géographie-là, le fait que, dans la durée, la politique nationale se focalise néanmoins sur la question des immigrés, et donc, d'une certaine manière, ouvre la porte à des critiques extrêmement fortes sur le mode, effectivement, puisque là, pour le coup, il y a bien cette géographie à deux versants, si je peux dire, et qui donc ouvre la porte aux critiques sur le mode de la concurrence des pauvretés ou des besoins entre les immigrés et les Allemands de souche. Donc peut-être que ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu nous dises... Comment est-ce que c'est joué, à partir peut-être d'un ou deux exemples, si tu l'as en tête, comment est-ce que c'est joué le programme Sozialstaat, justement dans ces cités de l'Est, qui sont plus germaniques, si je peux dire. Est-ce qu'il y a une spécificité de ce programme-là à l'Est?
Oui.
Et voilà, peut-être dans un premier temps, et puis après j'ai une autre question.
Ok. Bon, peut-être je parle de cet aspect général ouest-est. Bien sûr, nous avons cette concentration, disons, c'est peut-être un peu généralisé. Dans l'ouest, nous avons beaucoup de quartiers qui ont mis l'accent et qui mettent encore aujourd'hui l'accent sur la question des migrants, l'intégration des migrants. Comme l'exemple dont j'ai parlé, Dortmund-Nordstadt, avec deux tiers, trois quarts de taux d'immigrés, population ici de l'immigration. Là, ça vient peut-être du constat de la politique locale et des managements de quartier à qui s'adresser quand on veut s'adresser à des groupes spécifiques. Là, je ne vais pas trop m'adresser à tout le monde. Il y a des centres pour tout le monde, bien sûr, mais pour des mesures spécifiques, ce sont des questions de langue, questions de cours d'intégration. Là, il faut mettre l'accent. Donc, pour conséquence, ça peut être aussi pour l'Ouest de ne pas trop s'adresser aussi aux pauvres, peut-être on dit allemands, mais là il y a quand même aussi tous les autres dispositifs qui existent de l'État pour... en fait, éviter une précarité totale. Donc, ça vient peut-être plutôt de la politique générale qui s'adresse à ces populations-là, soutenue aussi par des centres, le management de quartier, comme par exemple à Kranichstein, quand on parle de 90% du temps quand on s'adresse aux migrants, il y a encore un cinquième du temps pour s'adresser aux Allemands de souche ou quoi. Hein. Donc là, tu as peut-être aussi ces questions à qui s'adresser, pourquoi. Mais En général, je dirais, il n'y a pas vraiment ces discussions à l'Ouest. Pas trop. Il a peut-être une certaine peur de s'adresser trop aux migrants et aux réfugiés. Et qu'est-ce qu'on fait encore pour tous les autres? Mais c'est surtout un discours à l'Est avec des taux de 2-3% d'étrangers. Même, pas seulement étrangers, mais... personnes mit Migrationshintergrund, donc ceux qui viennent issus de l'immigration. Là, c'est un discours de Pegida, Alternative für Deutschland, qui est renforcé que l'État pourrait s'impliquer plus aux pauvres Allemands et pas s'adresser aux réfugiés, mais en principe, on ne peut pas constater une diminution des investissements dans la politique sociale. Donc c'est vraiment une peur qui se reproduit, qui devient peut-être aussi plus grande que l'État pourrait se retirer dans le futur des investissements sociaux, ou bien les investissements pourraient coûter cher pour l'intégration des réfugiés, mais c'est en fait jouer activement avec cette peur. Jusqu'à présent, bien sûr, c'est dit qu'on va aussi dépenser de l'argent pour l'intégration des réfugiés, mais comme Marie-Christine a déjà cité pour la Suède, il y a beaucoup de postes créés dans le secteur social pour les réfugiés. Donc, aspect économique, renforcement de l'économie et surtout dans le secteur social, en fait, où il y avait un certain manque de postes ou pas trop d'investissements il y a les années dernières. Donc, plutôt pas trop objectif, mais surtout subjectif.
Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu de vases communicants des crédits publics entre une population et une autre.
Non.
Mais qu'en revanche, effectivement, il y a un certain discours politique qui joue là-dessus. Bon, c'est des choses qu'on a aussi entendues, évidemment, chez nous, y compris d'ailleurs chez nous de la part d'organisations charitable, hein, spécialisé dans la lutte contre la pauvreté, certaines d'entre elles disant effectivement qu'on avait déjà du mal avec les SDF viennent chez nous et donc accueillir des migrants en plus ne faisait qu'aggraver les problèmes. L'autre chose moi, qui me frappe, justement, c'est finalement, là, apparemment, hein, dans ce que tu dis, la très grande capacité de ce programme à s'adapter à la sociologie des quartiers. Alors, c'est sans doute lié à ce que tu dis, à savoir l'importance de l'implication locale du management de quartier, en fait, de la présence des groupes, des associations locales dans la définition des programmes. C'est vrai que quand je compare avec la politique de la ville en France, enfin pour ce que j'en connais, mais certains ici connaissent ça mieux que moi, dans la politique de la ville en France, il n'y a pas que des crédits, comment dirais-je, qui seraient à la disposition du programme local, etc. Il y a aussi toute une série de fléchages d'orientation nationale sur l'insertion, la prévention de la délinquance, la lutte contre l'échec scolaire, etc., etc. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que derrière une apparente adaptation aux conditions locales, il y a eu une espèce de processus de normalisation, si je peux dire, de la politique de la ville, qui fait qu'à une époque, peut-être que maintenant ça a changé, je me tourne vers Pascal qui connaît ça mieux que moi, à une époque, on prenait des contrats de ville. On a enlevé le nom de la ville, et à la lecture du contrat de ville, c'était absolument impossible de savoir dans quelle ville on se situait. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de stéréotype qui était tout à fait étonnante, et finalement, des diagnostics sociaux qui étaient pratiquement les mêmes d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre. Toi, tu sembles dire qu'au contraire, il y a des stratégies extrêmement différenciées selon les quartiers, puisque à un moment donné, tu dis, ouais, on fait le choix de parler à tel groupe plutôt qu'à tel autre groupe. Je sais pas, là aussi je me tourne vers les spécialistes français, je pense que ça serait très difficile en France, non, d'afficher des telles priorités sociologiques, alors même qu'on peut se dire que ça a du sens, que ça peut être efficace aussi, même si c'est un certain cynisme. Alors, je sais pas, je me tourne vers toi, Pascal, excuse-moi, je te vois de loin, je ne vois pas très bien. Par rapport à cette lecture très sociologique, quoi, en disant je cherche les groupes, les leaders, les interlocuteurs, etc. Et finalement, je leur accorde une place dans le dialogue administration, politique, population, au fond, en situation d'intermédiaire, d'interprète ou de médiateur. C'est des choses que vous pratiquez, vous, concrètement, dans la politique de la ville à Lyon.
Dépendant, c'était dit ce matin, des différents dispositifs en matière d'habitat et de renouvellement urbain, en matière d'emploi-insertion, en matière de soutien au développement économique. Donc en réalité, les contrats de ville d'ailleurs, et aujourd'hui, il est imposé qu'il se présente par pilier, qui est urbain, qui est social, qui est développement économique. Donc effectivement, il y a une forme de norme imposée. National, mais qui est accepté très facilement dans le cadre. Donc, il y a une forme d'exercice obligé. Et après, effectivement, ce que je pratique, enfin, les équipes projet travaillent beaucoup avec des acteurs locaux, mais en fonction de ces orientations qui sont finalement quand même très nationales, qui se déclinent localement de manière un peu différente, mais on retrouve à peu près effectivement la même chose un peu partout. Je ne sais pas, je vais peut-être pas remettre d'un terme, mais peut-être plus référence à une notion de développement communautaire, de Bormund, qu'on pratique assez peu localement. Alors un Bormund, développement en français, mais qui n'est pas tellement, qui n'est plus tellement, c'était peut-être plus valable du temps des équipes d'ESCU, mais aujourd'hui, l'ingénierie territoriale est assez peu sur ces sujets-là. Et les acteurs locaux, quand on parle d'acteurs locaux, on retrouve un petit peu toujours les mêmes catégories d'acteurs locaux. C'est non plus pas tellement des orientations données par les élus locaux. Il peut toujours y avoir des exceptions, parce que dans un quartier, il peut y avoir une association ou un groupe d'habitants ou une population particulièrement qui va connoter, qui va donner une personnalité particulière au quartier, mais c'est pas tellement, pas le sentiment, enfin, j'ai fait un moment, c'est très différent de la manière dont en Allemagne on aborde ces questions-là. Mais également, parce que j'en profite, une question, parce que je ne sais pas bien si pour la conduite de ce programme social Stadt, il y a l'équivalent d'une contractualité, c'est-à-dire comment le programme est contractualisé localement, parce qu'il y a un contrat entre les différentes collectivités publiques, qui est en fait le chef de file. En France, c'est essentiellement maire, président de l'intercommunalité, quand il est le maire de la ville-centre, et le préfet localement. Donc l'État est très présent, du coup, ça a été concentré l'État et notamment le préfet. Et je ne sais pas donc comment le programme localement que vous venez de nous parler est organisé, comment les choses sont contractualisées. Comme en France, tout le monde doit avoir signé son contrat de ville le 31 décembre à minuit, le chef de la poste faisant foi, ou si c'est les collectivités localement s'engagent dans ce programme au fur et à mesure de leurs souhaits, de leurs besoins, des priorités qu'elles donnent aux questions auxquelles elles sont confrontées.
Bon. Alors, pour ce premier aspect, je dirais, vous avez dit que la politique de la ville est très dépendante des dispositifs. D'une certaine manière, je dirais que c'est aussi le cas pour la ville sociale. Nous l'avons bien pu constater en ce qui concerne ces projets modèles. Tout le monde s'est jeté sur les projets modèles parce qu'il y avait de l'argent. Quand on a met fin au projet modèle, Et quand on a réduit le budget, ça posait problème pour les communes parce qu'ils sont déjà adaptés à ce nouveau dispositif. Donc, quoi faire après avec, bien sûr, aussi pour la question de financement, de management de quartier, comment poursuivre ce financement. Ou, en plus, il y a aussi d'autres dispositifs très connectés à la ville sociale, par exemple un programme qui s'appelle Bivac, qui s'engage surtout l'économie, travail dans le quartier, donc un programme justement dans les quartiers de la ville sociale, pas par ailleurs. Donc, pour profiter des moyens du Bivac, il faut être quartier de la ville sociale. Ou bien, quelquefois aussi, la juxtaposition de dispositifs. Nous avons rénovation urbaine ouest, rénovation urbaine est et ville sociale, quelquefois avec des quartiers qui profitent surtout à l'est de la rénovation urbaine est, avec aussi un financement pour plutôt le volet social de la ville sociale, ou juxtaposition de dispositifs. Et il faut juste s'impliquer dans ces dispositifs. Si on n'arrive pas à bien établir des liens entre les programmes, on ne reçoit pas financement pour, par exemple, maintenant 2017-2018. Et surtout, il faut s'impliquer un peu aussi chaque année à nouveau, avec un nouveau accord avec l'État. Je dirais que c'est moins contractualisé qu'en France, mais quand même, avec les financements, il faut quand même être assez clair, avec un concept précis, avec un budget clair. Maintenant, il y a en général, je dirais, maintenant, il faut simplifier pour 2017 avec une analyse très concrète, ce qui a bien marché dans un quartier de la ville sociale, ou pourquoi on veut être un des nouveaux quartiers de la ville sociale 2017, avec un bilan, avec des projections, avec un bilan, un budget assez clair, et donc, dans ce cas, c'est la commune qui s'engage. Donc, il n'a pas trop cette contractualisation trop lourde, peut-être, mais c'est quand même assez bien réglé aussi de ce côté de financement. En général, je dirais, dans les communes, comme c'est un programme de la Städtebauförderung, donc du volet urbain, nous avons normalement une équipe dans chaque commune proche de l'aménagement du territoire ou bien du volet social qui règle ces questions de contrat et qui transfère après l'argent à des associations plutôt sociales, par exemple pour le management de quartier. Donc c'est aussi l'idée de projet, de postuler pour le management de quartier, cette idée de projet, de postuler pour un projet au niveau aussi européen peut-être, mais c'est peut-être pas trop lourd. Mais quand même, bien sûr, dépenser de l'argent, respecter les règlements, c'est quand même assez lourd, c'est d'habitude pas possible sans une équipe assez volontaire, assez active au sein des communes. Donc ce sont vraiment les communes avec, ou les villes avec des équipes fortes ou bien engagées. Mais d'habitude, une personne, deux personnes à mi-temps qui s'engagent dans... Oui, à gérer cette ville sociale.
Une gestion plutôt gestion administrative.
Oui, tout à fait.
Et financière.
Tout à
fait. Donc, ça veut dire, si je t'entends bien, que ce que tu appelles management de quartier Bon, d'abord, peut-être que tu pourrais expliciter ce que tu entends par management de quartier. Mais si je comprends bien, c'est confié à des associations locales. C'est à la différence de chez nous, où on a des équipes, même si elles sont subventionnées, qui sont d'une manière ou d'une autre très explicitement rattachées à la ville, à la municipalité, en fait, qui ont un statut administratif. Là, ce que j'entends de ce que tu décris, c'est qu'une partie de cette activité qui, chez nous, est assurée par un organe administratif ou para-administratif, et chez vous assuré par des associations de quartier qui reçoivent une espèce de délégation de la municipalité, du Land et de l'État.
C'est pareil, les villes elles subventionnent des associations pour faire...
Non, mais je parle de la question du management de quartier.
Ah, du management.
Oui, parce qu'il a utilisé le terme management de quartier, donc je l'entends comme, tu vois, chef de projet, en fait.
Oui. En fait, les managements de quartier ne dépendent d'habitude pas directement des villes et donc pas vraiment ce qu'on pourrait pas peut-être aussi appeler en Allemagne chef de projet. Il y a des chefs de projet d'une certaine manière, un projet mais doit apparaître un social Stadt au sein des communes. Mais les managements de quartier, c'est vraiment le volet social confié par exemple à la Caritas, donc oui, une association aussi religieuse qui mène les managements de quartier avec des heures où tout le monde peut s'adresser au bureau et poser des questions qui aident à faciliter la vie quotidienne. Qui accompagne les gens à la ville pour toute question administrative. Quelquefois, ce sont aussi des bureaux d'études, des bureaux qui viennent plutôt de l'aménagement du territoire, qui accompagnent. Ça dépend maintenant. Tu as en principe, maintenant, ça vient de cette idée. Est-ce que le programme de la ville sociale est impliqué et est mis en place au niveau local plutôt comme programme urbanistique? Là, c'est le management de quartier qui aide aussi à la restructuration de bâtiments, etc. Donc là, ce sont plutôt des bureaux d'études venant de l'aménagement du territoire. Ou bien tu as plutôt cet axe social avec des questions quotidiennes sociales, etc. Tu vois, là, c'est plutôt, ce sont plutôt des associations religieuses ou culturelles qui mènent le management de quartier, qui peuvent postuler pour s'impliquer dans ce management de quartier, quartier management. Donc, il y a vraiment un bureau au sein des quartiers qui ne dépendent d'habitude pas directement de la ville.
Qui est financé par la ville.
Financé par ce programme de la ville sociale, mais qui ne dépendent pas directement de la ville. Ouais. Donc ce ne sont pas vraiment des... ils ne font pas partie de l'équipe des communes.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou... besoin de précision. Bon, je note quand même que... Oui, pardon.
Oui, juste une question. Ce matin, on a beaucoup parlé de mixité, de volonté de mixité. Est-ce que vous avez la même ambition ou pas du tout?
Dès le début, en fait, cette question de mixité sociale n'a jamais été... n'a jamais fait partie de la ville sociale. En fait, bien sûr, le programme voudrait bien aussi... C'est vraiment une bonne question parce que, en principe, avec les moyens investis dans les quartiers, on peut, dans les quartiers de la ville sociale, constater de plus en plus on peut constater des processus de gentrification. Donc ce qui se passe, c'est le départ des plus pauvres et surtout ainsi de migrants. Avec l'arrivée d'une classe moyenne, là aussi plutôt une classe moyenne d'origine allemande ou quoi. Donc peut-être avec ces investissements, c'est aussi une mixité sociale qui suit, mais pas vraiment souhaité. C'est critiqué, par exemple, à Berlin-Kreuzberg, avec cette concentration de Turcs, mais en général, la politique allemande n'essaie pas d'augmenter une mixité sociale ou de s'impliquer dans ces questions de mixité ethnique. Ça, c'est vraiment pas l'approche politique. C'est plutôt peut-être le contraire de dire ceux qui arrivent s'adressent à ceux qui connaissent déjà la situation administrative allemande. Donc, les Turcs déjà arrivés peuvent aider les nouveaux arrivants. C'est plutôt un discours assez ancré dans la sociologie allemande qui se reproduit aussi dans cette politique-là.
Oui, est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter un peu plus sur ce qui se passe depuis un an et demi, et notamment par rapport à ce portrait un peu que vous avez dessiné des grands ensembles en Allemagne. Est-ce que de quelle manière est-ce que ça s'articule en fait avec l'afflux de réfugiés, et en gros, enfin, de manière plus générale, comment et dans quelles conditions les réfugiés sont accueillis, même si c'est un petit peu à côté du thème de votre exposé. Sinon, par rapport à l'exposé lui-même, il y avait des points que j'avais relevés et puis sur lesquels je n'ai pas forcément bien entendu vos développements ou compris. Vous avez dit au début qu'il y avait une forte relation entre développement économique et démocratie participative. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et l'autre point qui n'était pas clair pour moi, oui, c'était... Oui, deux autres. C'était... Vous avez beaucoup insisté sur le fait que la politique de l'AME sociale n'hésitait pas à s'appuyer sur des groupes spécifiques. En semblant dire que c'était une différence par rapport à la France, est-ce que vous pouvez nous dire de quel groupe il s'agit et comment vous voyez cette différence? Et enfin, j'ai pas très bien compris en fait quels sont exactement les critères d'élection des territoires de cette politique.
Donc je commence avec les critères de sélection. En principe, aujourd'hui, nous avons deux critères spécifiques, c'est le taux de chômage des quartiers et le taux des étrangers. Et puis, il y a en plus toute autre sorte de problématiques identifiées, urbanistiques, sociaux, économiques. En fait, il n'y a pas vraiment de critères à respecter ou à atteindre. Ouais. Vous voyez, donc c'est pas vraiment nécessaire, par exemple, d'avoir 20% de grands ensembles au sein des quartiers. C'est assez flou, donc ça dépend vraiment de la justification dans les dispositifs des communes, les projets. Par exemple, il y a un joli exemple, la ville d'Erlangen, c'est au nord de Nuremberg, a profité de la ville sociale. Si on vient dans cette ville, c'est une ville riche, une ville qui a une grande université, qui est fortement ancrée dans l'histoire de l'entreprise Siemens. En général, cette ville n'a pas de problème. Et là, c'est vraiment incroyable de le voir, la ville a profité de la ville sociale pour son commerce au centre-ville, parce qu'il y avait peut-être 5-6 maisons pas rénovées au centre-ville, vides, qui ont en principe dérangé la ville. Donc la commune s'est investie, a probablement rédigé un bon projet et a reçu de l'argent. Pas de question de migrants, pas de question en fait sociale. Donc juste cette question économique. Mais bien vérifiée, bien argumentée. Merci. Bien argumentée. Donc critère de sélection, c'est assez flou pour tout le programme jusqu'à présent. Bien sûr, pour ce quartier, pour les quartiers avec un taux élevé de migrants, beaucoup de chômage, problèmes urbanistiques, etc., c'est beaucoup plus facile de profiter de ce programme. En ce qui concerne les groupes, là, il s'agit vraiment en général de groupes ethniques religieuses. Là, dès le début, en principe, ça ne pose pas problème. Depuis 2005, pour le programme, ça ne pose pas vraiment problème de s'adresser aux Turcs, aux Italiens. Mais, bien sûr, il y a aussi l'autre côté. La politique doit constater qu'il y a aussi des groupes définis qui ne veulent pas trop s'impliquer. Par exemple, à Nuremberg, la ville a essayé d'établir des associations associations de commerce, donc économiques, de Russes, de Turcs, d'Italiens. Les Italiens ont dit, écoutez, nous sommes Allemands, qu'est-ce que vous voulez s'impliquer dans une association italienne, c'est idiot, nous faisons partie des structures allemandes, je ne vais pas m'impliquer dans une structure dite italienne. Là, la politique a réagi, c'est dommage, si vous ne voulez pas, quand même, réfléchissez encore. Ça, c'est peut-être l'autre côté. Donc, s'adresser aux groupes spécifiques pour résoudre de problèmes spécifiques, même si ça ne pose pas vraiment de... en général. Puis, développement économique et démocratie participative. En fait, ça vient de l'idée qu'avec un développement économique, surtout pour ceux qui sont au chômage, quand on les remet au marché du travail, ils ont plus envie de s'impliquer aussi dans la vie culturelle, sociale du quartier, et donc ainsi renforcer la démocratie participative. Parce que pour ceux qui sont exclus, qui n'ont pas de travail, c'est beaucoup plus facile, dit le programme social, de les intégrer dans la démocratie participative. Donc faire partir les habitants par une intégration au marché de travail. Ça, c'est un peu cette connexion faite entre développement économique et démocratie participative, je dirais.
Wirtschaft.
Oui, tout à fait. Économie et société liées directement. Et puis, cette question de réfugiés. Alors là, tout d'abord, il y a des camps de réfugiés dans chaque land où les réfugiés arrivent. Après, ils sont redistribués aux communes. Donc, l'année dernière, c'était des cas assez catastrophiques pour les camps de réfugiés, d'abord en Bavière, mais puis avec une répartition aussi dans les autres LNR, assez dramatique. Puis, après ce constat que, par exemple, 10 personnes sur 10 mètres carrés, c'est impossible. Les camps de réfugiés, des LNR ont assez vite essayé de transférer les réfugiés aux communes, mais avec le problème de ne pas avoir d'abord adresser la question, est-ce que ce sont des réfugiés qui ont la chance de rester en Allemagne ou est-ce qu'ils doivent repartir? Donc les communes étaient confrontées à des réfugiés pas enregistrés, donc sans aucune information, mais avec en principe le problème de devoir disposer de logements. Ça fait aussi partie de ce constat à l'Est. Il y a ainsi de concentration de réfugiés dans quelques villes qui n'étaient jamais à l'Est confrontés à un taux élevé de réfugiés. Donc quelques communes de, disons, peut-être 15 000 habitants ont dû accueillir 1 500, 2 000 réfugiés. Ça a provoqué de tensions, surtout à l'Est. À l'Ouest, bah, en principe, on discute du problème de financement. Il y a maintenant aussi de l'investissement de l'État fédéral avec des moyens financiers augmentés. Mais en général, d'abord, c'était quand même l'État qui a dit ben, c'est la question, c'est le devoir des communes. En général, c'est réglé comme ça. Normalement, ça a bien marché, mais avec 1 million de réfugiés arrivés en 2015, c'était impossible de résoudre ce problème. Et là, bien, c'est de là que vient maintenant cette discussion autour du financement. Quand les réfugiés attribuent les documents officiels pour rester en Allemagne, là, ils obtiennent aussi le droit de travailler et de se trouver un logement eux-mêmes, mais ça, c'est un pas assez tard. Maintenant, nous avons encore de ce chiffre d'un million de réfugiés, l'institution centrale est probablement arrivée maintenant à 800 000 réfugiés registrés. Ça va pas être possible de registrer les autres jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça prend quand même un certain temps avant qu'ils puissent juste s'intégrer de la manière de, par exemple, profiter des cours de langue. C'est juste possible après. Donc, ça ralentit un peu le processus. Et pose aussi ainsi problème pour les communes qui ne savent pas trop quoi faire. Ils doivent respecter, en principe, le règlement établi. Mais ce n'est pas adapté à la situation qui se pose au niveau local.
Mais en termes de logement, comment vous faites?
En principe, louer par exemple des logements de propriétaires, les camps de réfugiés, et en plus de logements sociaux libres dans les villes, surtout allemandes de l'Ouest, je dirais. Donc un peu un mélange. Et bien sûr, maintenant, de plus en plus, sur le marché, le marché public.
Voilà. Si j'en juge par le taux de vacances de logement en France, il doit y avoir des taux de vacances à peu près équivalents, voire supérieurs en Allemagne, donc des marges de manœuvre relativement importantes sur le marché du logement. Bien, je vous propose qu'on suspende là pour l'instant sur l'Allemagne. Merci beaucoup, Florian.